Voilà, on accueille David. Un grand merci encore à tous ceux qui ont chanté, aux musiciens d'Altec. On aura encore un dernier chant après qu'on pourra prendre. Et bienvenue David.
Bienvenue, merci à vous.
Comment tu vas ?
Je me sens super à l'aise. Attends, je regarde les questions d'abord.
Ah, non, c'est
ok. Tu peux faire un caout aussi, moi ?
Ça, tu les as pas.
Je peux récupérer les équipes ? Ce serait sympa. Allez, je vous laisse.
Alors, on a 2 minutes pour présenter. Alors, on va essayer de le faire en 1 minute, avec des petites questions courtes. Tu auras max 5-10 secondes pour répondre.
Ok.
Ça te va ?
Alors, la première, c'est quelle est ta profession ?
Directeur de communication.
Directeur com.
Directeur com.
Directeur com de quoi ?
Du SEL.
Qu'est-ce que le SEL ?
Alors, le SEL, c'est une association humanitaire créée il y a 40 ans qui lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.
Voilà. Et marié depuis combien de temps ?
Oulo, mauvaise question. Combien ? 34 ans. Bah ouais, mais voilà. Bon.
Tu as combien d'enfants ?
3. Ouais, c'est ça, 3.
On sait plus, à un moment donné.
C'est pas toujours évident. Hein. Ça vient, ça repart, ça revient, c'est bon.
Lieu d'habitation.
J'habite à Marne-la-Vallée, donc tout près de Disney.
Marne-la-Vallée, tout près de Disney. C'est bon pour le micro ?
Ça marche ou ça marche pas ?
Ouais, c'est bon, ça marche.
Ouais.
Tes passions ?
Mes passions, ça a guère parti. Donc, vous m'entendez
ou pas, là ? Oh là là, mon Dieu. Donc, mes passions, je raffole des synthétiseurs. La musique, donc beaucoup, la science-fiction. La Suède, ma mère est suédoise, voilà.
D'accord. Alors, à ce titre, quelques petites questions, plutôt rock ou plutôt pop ?
Rock.
Plutôt rock.
Plutôt Battle ou Rolling Stone ?
Beatles ou Rolling Stones ?
Bon, garçon, Rolling Stone. on va l'aider tout à l'heure. Hein ? Vous avez cherché des trucs que je suis censé connaître ?
Voilà, plutôt Star Wars ou James Bond ?
Ah, c'est dur ça.
Si
je dis James Bond, ma femme m'aime, mais c'est plutôt Star Wars en fait.
Okay. Plutôt science-fiction.
Ouais, plutôt science-fiction quand même.
Alors, plutôt les tartes flambées de l'Alsace ou galette bretonne ?
Tartes flambées, sans souci.
Bonne réponse.
Je suis né à Mulhouse, hein, c'est juste pour vous dire quoi.
Plutôt PSG ou OM ?
Formule 1.
Formule 1.
Ah, allez vous faire voir.
Grosse fine base de Formule 1 ici, incroyable.
Non, mais même pour rêve.
D'ailleurs, on a une question à ce propos. Nathan, elle est pour toi.
Plutôt, c'est la dernière.
Plutôt Fernando Alonso
ou le roi David ?
Plutôt Fernando Alonso ou le roi David ?
Il avait quand même des gros défauts, le roi David. non, aucun des deux. Non.
Alonso, deuxième
non.
place sur la
non,
grille.
Alors je serais plutôt Sébastien Loeb, tu vois. Okay. Il n'est pas là, mais bon, il est un peu là. En fait. Il est entre les deux.
Tu t'en fais beaucoup pour te faire aimer, c'est bien.
Ah non, moi, je suis en grand fan de rallye, donc chacun son truc. Quoi.
Très bien. Et dernière question, Nathan, elle est pour toi.
Plutôt Ronaldo ou Messi ?
Oh Seigneur, c'est pas possible ça.
C'est la question.
Non, mais vous avez une fixation sur le foot, quoi. Il faut arrêter, quoi.
Eh oui.
Bon, Gastier.
Gastier.
Rugby, voilà.
Très bien. C'est moi ma cam, mais voilà. Bon ben, on te connaît un peu mieux.
Je suis pas sûr.
Pas tout à fait.
Je suis pas tout à fait sûr que vous me connaissiez mieux.
En tout cas, voilà, le parquet est à toi.
Merci beaucoup. Attendez, je vous rends vos questions parce que tant que vous les potassiez.
Merci. Voilà.
Bonjour à tous. Alors, je vous vois pas du tout, mais c'est normal. Si on peut m'afficher, s'il vous plaît, la première slide. Ça marche le truc ?
Oui.
Alors, je m'appelle David Alonso, ma femme est là-bas. Hein, donc, si vous voulez vérifier tout ce que je raconte, vous allez voir ma femme. C'est aussi simple que ça. Et donc, je suis le directeur de la com du SEL. Et au siècle dernier, pour ceux qui s'en rappellent, mais la plupart d'entre vous ici y êtes nés juste après, j'étais à l'origine concepteur de jeux vidéo. Et ouais, alors donc, pour les anciens qui sont parmi ici, oh là là, je ne sais pas c'est quel micro, c'est celui-là. C'est celui-là qui est ouvert. Pour les plus anciens, en fin de compte, je travaillais sur des Amiga, des Atari. Et finalement, je suis basculé en com très vite. Et la com associative m'a passionné. Et oui, il y a une com pour les associations. Et ça fait presque 40 ans maintenant que je ne travaille que pour des associations. Je n'ai jamais travaillé pour autre chose que des associations. Et depuis maintenant quelques années, je travaille au SEL. Et je kiffe ce métier, en fait, vraiment. Voilà. et vous trouverez des traces du travail de mon équipe dans le festival. Donc n'hésitez pas, le Repan, hein, Impulsion Pentecôte, vous êtes les seuls à avoir cette ristourne. Profitez-en, faites pas trop circuler, mais profitez-en. Alors la question de l'amour du prochain, c'est un sujet qui me travaille bien avant le sel. Et c'est un sujet compliqué. En fait, c'est un sujet qui se pose facilement, mais la réponse est compliquée. Et donc, vous le comprenez, mon engagement au sel, c'est pas que directeur de la com. Quand je suis arrivé au sel, moi, je suis venu prendre un métier. C'est seulement quelques années plus tard que j'ai compris que c'était aussi une mission. Et j'ai compris que aimer les plus pauvres, au nom de Jésus, eh ben, c'est tout un programme. Et c'est un programme qui peut remplir la vie de plusieurs générations. Ce soir, je voudrais vous partager quelques réflexions. C'est pas une prédication. C'est des réflexions, c'est un partage, c'est peut-être quelque chose qui va vous interpeller, c'est un peu le but. Et j'espère que surtout ça vous aidera dans votre relation avec Dieu. Je remercie l'équipe de Louange pour les chants qu'ils ont choisis avant. C'était littéralement un message bis, vu la qualité des chants qui ont été choisis au niveau des paroles. Et ça, pour moi, ça me touche. Souvent, on ne fait pas trop attention à ça. Donc nous avons aujourd'hui un Dieu qui nous aime, nous l'avons chanté, nous allons aussi l'écouter. Alors, premièrement, se rappeler que la notion de prochain, en fait, c'est d'abord des gens qui remplissent cette salle. Donc regardez la personne à côté de vous, allez-y, vous ne la voyez pas très bien, moi j'ai la lumière dans la tronche, donc je ne vois personne, mais tout ça c'est que du prochain. Cette salle, c'est des kilos et des kilos de prochain. Cette ville, c'est des prochains. Cette région, c'est des prochains. On va y revenir sur cette conception du prochain qui souvent est parfois un peu erronée. Alors j'interviens cet après-midi, ce soir, sur une partie du sujet, je continuerai dans la prédication de demain, et la partie comment, plus applicatif, sera dans le cadre de l'atelier en grand groupe que nous aurons demain après-midi ici. Donc c'est un morceau que vous avez, j'essaierai de raccrocher les morceaux, mais tout le monde n'aura pas la même partie. On va commencer par lire un texte qu'on connaît bien. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors on le verra souvent. Jésus joue avec les docteurs de la loi, avec les professeurs de la loi, avec les spécialistes de la loi. En fait, il semble que Jésus était un peu à l'origine de cette loi. Il était à l'origine de la loi, en fait, il était la parole. Et donc c'est lui qui a mis cette loi dans le cœur des hommes. Donc en fait, c'est pas juste qu'il la comprend, c'est lui qui a créé les règles du jeu de cette loi. C'est pour ça que les pharisiens l'appréciaient en ne l'appréciant pas. C'était compliqué, Jésus, pour eux, parce qu'il était du même niveau qu'eux, et en même temps, à chaque fois, il les bâchait un peu, et c'était échec et mat. Alors, une petite question, juste pour voir, à votre avis, de ces deux commandements, est-ce que ces deux commandements sont égaux ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain, ou est-ce qu'il y a un ordre d'importance entre ces deux commandements ? À votre avis, est-ce que ces deux commandements sont égaux ou est-ce qu'il y a un ordre d'importance entre ces deux commandements ? Alors, ceux qui sont égaux, ils lèvent la main. Je vais peut-être voir quelque chose. Allumez-moi un peu la salle si vous pouvez, ça me fera plaisir. Voilà. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas égaux, levez la main. Ah, c'est mieux comme ça. Laissez-moi la salle allumée, ça sera beaucoup mieux. En fait, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux, parce que en fait, si on devait aimer son prochain de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, ce serait en fin de compte limite une concurrence à Dieu et de l'idolâtrie. Et on ne peut pas considérer que les deux soient égaux. L'un va avec l'autre, mais en fait, les deux ne peuvent pas être mis au même niveau. Dieu a toujours la prévalence. Deuxième point, vous ne pouvez pas aimer votre prochain comme Dieu le demande si vous n'aimez pas d'abord Dieu. Donc il y a un ordre de priorité entre les deux. On y reviendra. Ces deux fonctionnent ensemble, ces dieux doivent fonctionner, c'est les premières tables de la loi, et la deuxième table de la loi, c'est la deuxième partie sur le prochain, mais dans les faits, Dieu est toujours premier, toujours, même ici. Il y a un ordre logique. Sur la question qu'il pose, la réponse de Jésus est donc sans ambiguïté. Hein, quel plus grand commandement ? C'est aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Et il parle bien donc de commandement, et c'est aussi important. Ça nous est difficile de penser que Dieu nous commande d'aimer. Quand vous aimez quelqu'un, c'est quelque chose qui apparaît dans votre cœur. Vous l'aimez. Est-ce qu'on vous a déjà obligé à aimer ? Alors pensez très fort à un plat que vous détestez. Vous l'avez là ? Et maintenant, on va travailler tous ensemble pendant 15 minutes pour arriver à la fin à ce que vous désiriez profondément ce plat. C'est parti. Vous y croyez ? Ben pas moi. C'est le commandement d'aimer est déjà en soi quelque chose de compliqué. Ce serait une suggestion, ce serait un effort, ce serait un encouragement, ça irait. Mais que ce soit un ordre, un commandement, et le plus grand, là, la barre elle devient très haute. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et comment ce commandement maintenant nous concerne. Alors on va aller sur un texte qui va nous accompagner aussi demain. Donc demain, quand je le lirai, vous prendrez votre smartphone, vous ferez vos WhatsApp et Instagram, ce que vous voulez, parce qu'on va le faire deux fois. Luc 10, versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Oh là, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Rappelez-vous de cette question. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fin de discussion. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Et Jésus lui dit donc « Va agir de la même manière toi aussi. » Et on y reviendra demain. Texte qu'on connaît très bien, qu'on a vu en dessin animé, en film, que l'on pense souvent avoir entendu comme étant une apologie de la bienveillance, et on verra que c'est autre chose. Ce n'est pas que ça. Qui est mon prochain ? Pourquoi le docteur de la loi pose-t-il cette question ? Et pourquoi Jésus lui répond-il par cette histoire de Samaritain ? Alors on va faire un petit jeu. Vous fermez tous les yeux. Alors vous ne partez pas en sieste, vous faites juste fermer les yeux. Fermez les yeux. Ferme les yeux. Toi aussi. Triche pas, ferme les yeux. Voilà. Si je vous dis aide ton prochain, à qui pensez-vous en premier ? Aide ton prochain, quel est le visage qui vient en premier dans votre tête ? C'est bon ? Normalement, il est venu tout de suite. Donc il est arrivé tout de suite où il n'y a rien qui est venu. Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez, que vous aviez croisé ? Sans doute. Vous pouvez ouvrir les yeux, au fait. Hein, j'en vois tout un paquet là qui, comme ça, ils sont partis, tranquilles. On revient. Vous avez vu, principalement, pour la majorité d'entre vous, quelqu'un que vous connaissez. Pas obligatoirement que vous connaissez précisément, mais que vous avez sans doute croisé. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin qui vous avez vu ? Dites à vos voisins qui vous avez vu. Allez-y, n'ayez pas peur. Ouais, je sais, c'est embêtant, mais bon, il faut leur dire. Vas-y, quoi. C'est un petit moment d'intimité. Allez, OK ? Et maintenant, c'est bon, non, vous n'avez pas vu 25 personnes chacun non plus. On se calme. Est-ce que vous pouvez expliquer à votre voisin pourquoi vous pensez que vous avez vu cette personne ? Pourquoi vous pensez que vous avez vu cette personne ?
Ben, vous continuerez après, on s'arrête là. Mais vous avez, là, on le voit, vous êtes en train de raconter quelque chose. C'est-à-dire que vous racontez quelque chose sur quelqu'un que vous connaissez, plus ou moins, et qui vous permet de penser que c'est votre prochain. Vous voyez, le prochain, c'est quelque chose de très concret. Vous êtes capable d'en parler, vous êtes capable de voir un visage, vous êtes capable de le rencontrer. En fait, dans la Bible, le prochain, il est exactement comme vous le faites là. C'est quelqu'un de très proche. Alors, le prochain, dans la Bible, il est caractérisé par trois proximités. Je le redirai demain pour tout le monde, parce que c'est moins un élément de base. La première proximité, c'est la proximité géographique. On trouve souvent le mot « près de toi ». En fait, ton prochain, il est assis à côté de toi, là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des kilos de prochains ici. C'est quelqu'un de ton peuple. C'est un Alsacien de l'Alsace Nord. C'est un peuple ou pas? Je ne sais pas si c'est un peuple. Je vois. Vous êtes une tribu? Non. C'est un étranger chez toi. Ce n'est pas un étranger que tu ne connais pas. C'est un étranger qui est chez toi et que tu accueilles chez toi. C'est moi qui fais des crapouilles là aussi. Le deuxième sens, il est relationnel. Le terme signifie souvent aussi le voisin. On est souvent plus proche et amical avec des gens de nos écoles, de nos groupes de jeunes, qu'avec nos voisins. Pourtant, nos voisins sont nos prochains aussi. Et pour ceux qui ici sont dans des copros, hein, donc qui n'ont plus de cheveux, on se rappelle que nos voisins sont parfois des gens pas du tout agréables. Mais oui, mais ce sont quand même nos prochains. Cool. Alors, un deuxième moment sympathique pour... Qui ici a des parents? Vous pouvez lever la main, qui a des parents ici? Alors, pas de peau, vos parents sont vos prochains. Eh ouais. Alors, qui ici est parent? Alors, pas de chance, vos enfants sont vos prochains aussi. Voilà, ça marche dans les deux sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que le commandement d'aimer s'applique très bien à cela. Il y a des périodes dans nos vies, moi j'ai une fille qui a 18 ans, c'est merveilleux, il y a des périodes dans nos vies où clairement on devient vraiment le prochain de nos enfants. Ça ne va pas de soi, l'amour familial. On a besoin de prendre sur nous, de s'armer. Heureusement qu'on a un commandement d'aimer. C'est quelqu'un qui est connu, qui est à côté d'eux. Le mot souvent revient à côté d'eux. C'est pour ça que je vous dis, votre prochain est à côté de vous. Parce que bibliquement, on dit souvent que c'est quelqu'un qui est à côté de soi. Il est là, je ne le vois pas, il faut que je me retourne pour le voir. Ça, c'est un prochain. Et le troisième sens, il est spirituel. Et il est très important, surtout depuis que l'Église est arrivée. Le prochain, il est au sein de l'Église locale. Le prochain, c'est dans votre groupe de jeunes. Mais le prochain, c'est aussi la personne âgée que vous croisez le dimanche matin et que vous ne connaissez pas trop et qui pourtant a peut-être besoin. Le prochain, il est dans l'Église. Il est d'autant plus dans l'Église que nous sommes exhortés à nous aimer les uns les autres d'un amour que Dieu nous donne et qui est un amour tellement exemplaire qu'il amène le monde à nous voir et à se dire « Mais de quel amour s'aime-t-il » C'est un commandement. Ce n'est pas pour rien que c'est un commandement, parce que s'aimer dans l'Église, ça ne va pas de soi. L'Église, ce n'est pas une bande de copains. Et donc on a besoin de se rappeler que Dieu nous demande de faire l'effort de nous aimer. Comme on le voit, cette proximité, elle n'est pas figée. La question du docteur de la loi, c'était « Qui est mon prochain ? Décris-moi, donne-moi l'identité de mon prochain. Dis-moi qui c'est. » Comme ça, après, je peux éliminer tous les autres. Quoi. Tellement pratique. Mais ce n'est pas ça l'histoire. Ce n'est pas celui-là ou celui-là. Jésus rappelle que pour avoir du prochain, il faut être deux. À partir où vous êtes deux, il y a du prochain dans l'air. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais il y a du prochain dans l'air. On comprend mieux la question de Jésus à la fin. Vous avez jamais regardé cette question trop bizarre. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? En fait, qui Jésus qualifie-t-il de prochain ici? Pas le blessé dans le fossé. Il qualifie le bon samaritain de prochain. Il qualifie de prochain celui qui aide, pas celui qui est aidé. Quand on cherche son prochain, la réalité c'est qu'on devrait prendre notre main et faire ça. C'est de qui suis-je le prochain? La vraie question, elle est là. C'est pas qui est mon prochain. C'est de qui je suis le prochain. Le commentaire de Jésus à la fin de la parabole nous rappelle que le prochain dans cette histoire, c'est le Samaritain. Et c'est un point très important pour ce qu'on va comprendre ensuite. Alors, un petit point précis. Qui ici a Insta ? Instagram, je veux dire. Snapchat ? Un peu moins. Facebook, les anciens ? Allez, hop là. Donc, les anciens, comme d'habitude. J'adore. Facebook, c'est le réservoir des plus de 50 ans. Bah ouais. Croyez que vous suivez vos gamins sur Facebook, mais pas du tout, c'est eux qui nous suivent, c'est tout l'inverse. Alors, cette phrase-là, dans notre univers d'influenceurs, dans notre univers où on est tellement dans l'individualisme, cette phrase-là est devenue très mal comprise. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme ta propre chair, c'est une autre interprétation. On s'imagine que pour aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et on le comprend souvent comme ça. Je l'ai souvent entendu prêcher ainsi. Qu'il faudrait que j'atteigne 80% d'amour de moi pour pouvoir aimer l'autre à 70%. Comme si mon estime de moi était mon baromètre pour aimer l'autre. Mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est une fausse interprétation. C'est excellent pour un influenceur ou un spécialiste en développement personnel. Ça oui, les 10 leçons pour pouvoir être plus joli demain, ça marche nickel. Mais pas dans notre verset. Ici, la notion de chair dont on parle, ça veut dire faire partie de moi. Ça veut dire la personne qui fait partie de la même humanité que moi, du même peuple que moi, du même groupe que moi. Celui qui est en commun avec moi. Pas comme moi-même, dans le sens où j'atteins le même niveau que moi. Le sujet, c'est pas moi, c'est ce qu'on a en commun. Il me faut donc aimer mon prochain comme moi-même, parce qu'il fait partie de moi, en fait. Alors, dans notre époque d'individualisme, c'est compliqué de regarder les gens autour de nous et de se dire « ils font partie de moi ». Parce qu'on n'a plus trop cette notion de faire partie du groupe. On l'a dans l'Église, en fait. Mais dans beaucoup d'endroits, on l'a perdu. C'est un peu de la science-fiction pour beaucoup de gens, ce que je suis en train de raconter là. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait pour aimer ce prochain ou ce gars dont je suis le prochain, mais qui n'est plus le prochain ? Vous avez vu comment c'est devenu complètement compliqué, ce truc-là ? Et c'est ici que la parabole du bon samaritain nous intéresse. La parabole du bon samaritain, elle a plusieurs angles d'interprétation. Alors, je vous propose d'en retenir deux. Un, c'est l'interprétation courante qui identifie le prochain au blessé, mais comme on le voit, ce n'est pas exactement ce que Jésus dit ici, et qui nous exhorte à la générosité, à la bienveillance, et avec comme image à la fin la vie éternelle. Et on en parlera beaucoup plus demain. C'est au culte que je développerai plus cette interprétation classique. Et il y a une autre interprétation que je vais vous réserver ce soir et que je n'utiliserai pas demain, et qui est celle des pères de l'Église. Alors à peu près jusqu'au 5e siècle, on avait un certain nombre de professeurs, de moines, de personnes qui étaient en fin de compte réellement profondément connaisseurs de la parole de Dieu et qui ont marqué l'Église. Et on les appelle les pères de l'Église, avec des noms souvent très rigolos. Dorothée, c'est un homme, donc c'était un père de l'Église. Athanase, c'était un père de l'Église. Il y avait beaucoup de pères de l'Église grecs. Voilà. Et pendant 5 siècles, l'interprétation que je vais vous donner était l'interprétation dominante. Celle du prochain dans le fossé tel qu'on la comprend et que nous, on doit l'aider, ce n'était pas du tout celle qui était prêchée. Que je me retrouve dans mes feuilles. Alors, dans cette interprétation, devinez qui symbolise le Samaritain. Qui est le Samaritain ? Alors, je vais l'afficher après que vous ayez donné la réponse. Qui est le Samaritain dans l'interprétation des pères de l'Église ? On y va. Non. Donc, le chrétien à ma droite, non. Jésus. Le Samaritain, c'est Jésus. Et qui est la personne dans le fossé ? C'est nous. Nous habitons tous dans un fossé. Et en plus, on a des bonnes raisons de s'y tenir. Et oui, Jésus. Pendant près de 5 siècles, le héros de cette parabole, c'était Jésus. Puis après, ça a basculé, et à partir du 15e siècle, c'est très clairement une autre interprétation qui a pris le dessus. On a de la chance avec les paraboles, c'est qu'elles peuvent avoir plusieurs niveaux d'interprétation et ça ne les rend pas fausses. Et ça se complète, ce n'est pas contradictoire. Donc oui, le Samaritain serait la figure du Christ et le blessé symboliserait l'homme pécheur. On l'a très bien chanté tout à l'heure. Et vous allez le voir, cette façon de lire la parabole, c'est très intéressant pour chacun d'entre nous ici. Ici, dans ce sens-là, Jésus est celui qui s'approche des hommes perdus dans leur péché et dans la plus terrible des pauvretés, la mort spirituelle. Il y a un certain nombre d'interprétations de la parabole du bon samaritain qui expliquent qu'en fait, l'homme qui a été attaqué au bord du chemin, il n'a pas vraiment été attaqué. Il s'était mis avec des hommes de mauvaise vie et finalement, il avait été battu par eux. Et l'interprétation dans l'analyse du grec laisse penser qu'effectivement, ce n'était pas aussi simple que ce qu'on veut bien voir. Il était donc responsable. Le mot qui est utilisé pour « battu » dans la parabole, c'est le mot qu'on utilise lorsque vous êtes jugé et puni de 49 coups de bâton. Et c'est un mot très précis en grec. On n'utilise pas ce mot-là pour dire « je me suis battu dans la cour ». C'est le mot qui qualifie en fin de compte la sanction pénale de quelqu'un qui a été un brigand. Il avait donc reçu la punition des brigands par la loi. C'est pour ça que les pères de l'Église comprenaient que ce brigand, c'était nous, nous qui étions punis à cause de notre péché. C'est moi. Le bon samaritain, c'est Jésus et il s'est fait notre prochain. En fait, lui qui était sans péché et qui vivait avec son Père dans les cieux, il s'est incarné pour nous aimer comme lui-même. En fait, il est venu marcher sur notre chemin. Et alors que nous ne méritions rien de ce qu'il nous a offert, ce qui est exactement la situation du blessé dans le fossé, le bon samaritain, Jésus, prend soin de lui et s'occupe de tout. Je vous invite à fermer les yeux et à méditer les paroles que je vais vous partager maintenant, et à voir comment ça vous parle ou pas. Ça peut ne pas vous parler, hein, ce n'est pas une obligation. Ceux qui luttent avec le péché et qui ne peuvent se sauver eux-mêmes, dans cette parabole, c'est nous. Celui qui s'approche de nous et s'arrête pour nous sauver, c'est Jésus. Ceux qui n'ont rien qui puisse leur permettre de mériter l'amour de Dieu, c'est nous. Celui qui a sacrifié ce qu'il avait reçu pour les hommes, à terre, dans le fossé que nous sommes, c'est Jésus. Ceux qui n'ont pas la force de s'en sortir par eux-mêmes, c'est nous. Celui qui nous porte dans un lieu où notre âme se restaure, c'est Jésus. Ceux qui ne voient pas du tout comment leurs situations peuvent être résolues aujourd'hui, c'est nous. Celui qui prend soin de nous, qui nous loge à l'auberge des blessés trouvés au bord du chemin, cette auberge s'appelle l'Église, c'est Jésus qui nous y loge. Ceux qui regardent leur avenir et ne voient rien de bon venir, c'est nous. Celui qui dit qu'il paye tous nos soins et qui nous assure qu'il reviendra, c'est Jésus. Vous pouvez ouvrir les yeux. Avez-vous senti comment cette parabole, dans cette interprétation, nous accompagne dans tout ce que nous sommes ? Ah, on ne parle plus du prochain dehors. En fait, on vient de comprendre que le prochain ici qui a tellement besoin de s'approcher de nous pour nous aider, c'est Jésus. Nous avons besoin que Jésus s'approche de nous. Le prochain, c'est celui qui s'approche. Et cette parabole est une merveilleuse expression de la façon dont Jésus s'approche de nous alors que nous n'avons rien pour pouvoir mériter ce qu'il nous amène. Je voudrais inviter, si le piano peut venir, comme c'était petit morceau musical de fond. L'histoire du bon samaritain nous raconte la réponse que Jésus fait à cette question. L'histoire du bon samaritain, c'est pas une histoire sur le prochain que je dois aimer simplement. C'est vrai que c'est ça aussi, on en parlera demain. Mais c'est d'abord une histoire sur le prochain parfait qu'est Jésus, qui s'approche de chacun d'entre nous et qui décide de nous emmener, de nous restaurer, de nous soigner et de prendre soin de nous. Ça nous parle donc de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça. Et comprendre ce que c'est le prochain, quand on parle de Jésus, c'est comprendre aussi ce que Jésus va attendre de nous ensuite, de faire aux autres ce qu'il a fait pour nous. Ce soir, tu as peut-être les mêmes questions qui te rongent. Alors que tu marches avec Dieu depuis des années, je pense à toutes nos têtes blanches ici, têtes blanches là, têtes blanches là-bas, que ce soit peut-être dans les premiers instants de ta foi. En fait, ici, chacun d'entre nous, nous sommes d'une façon ou d'une autre le blessé au bord du chemin. La façon dont le blessé est décrit dans le texte nous dit que ce blessé était sanguinolent et n'avait plus aucune force. Nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes, même si nous le croyons. Jésus voit les obstacles qui sont là. Jésus voit ce qui nous empêche de croire qu'il peut agir. On referme les yeux. Ouais, moi c'est de l'animation, œil fermé, œil ouvert. Je vais citer un certain nombre de choses. Soit ça ne vous concerne pas, mais ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez et ça vous touche. Vous priez pour cette personne. Soit ça vous concerne, ça vous touche. Vous demandez à Jésus de vous aider. On y va ? Jésus connaît le péché qui te ronge. Je me suis battu pendant des années avec la pornographie. Ma femme le sait. Quand je dis des années, c'est des vingtaines, des trentaines d'années. Jésus connaît le péché qui me ronge. Ça peut être autre chose. Mon père est alcoolique. Oh, joie ! Jésus connaît le péché qui me ronge. Jésus connaît nos comportements pas glorieux. Ses promesses que nous lui avons faites. Oui, Seigneur, cette fois-ci, je m'engage et je vais tenir ma parole. Et je ne la tiens pas. Et je le déçois, et surtout, je me déçois. Toutes ces choses qui nous font croire, qui te font croire, qui me font croire que Jésus ne peut pas m'aimer tel que je suis. Quand j'étais gamin, quand j'avais 12-13 ans, l'image que j'avais de moi, c'était que j'étais caché sous un escalier et que Jésus passait et que je faisais tout pour qu'il ne me voie pas parce que j'avais trop honte de moi. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était ridicule. Mais sauf que quand je le vivais, c'était 100% de ce que je ressentais. J'arrivais pas à croire que Jésus puisse me rejoindre. Jésus connaît nos combats intérieurs. Tous ces domaines où on se bat et on croit qu'on va peut-être perdre. Tous ces points, on se dit, mais tant que je n'ai pas atteint ça, je ne suis pas à la hauteur de ce que Jésus attend de moi. Tous ces « je suis trop », « je ne suis pas assez ». Jésus connaît nos faiblesses, notre difficulté à trouver la force, notre difficulté à ne pas procrastiner, à ne pas remettre tout le temps au lendemain. Ce qui nous fait croire que comment peut-il m'aimer alors que je ne suis même pas capable de faire un demi-douzième de premier pas. Jésus connaît vos pensées inquiètes. Je suis un inquiet. Ça n'a pas l'air comme ça. J'ai plutôt l'air d'être un garçon léger et rigolo, mais je suis fondamentalement un inquiet. Jésus connaît mes pensées inquiètes. J'admire la génération actuelle quand elle voit le monde dans lequel on vous l'a laissé et qui arrive encore à avoir une espérance pour demain. Moi, je serais inquiet. Moi, j'aurais du mal à regarder mon avenir et à y voir quelque chose. Je le comprends, ça. Je comprends la difficulté que ça nous met de nous mettre en marche, de faire des projets pour demain. Pourtant, Jésus nous y attend dans ce demain. Jésus nous rappelle que c'est lui le Samaritain, c'est lui le souverain, le roi, le maître, au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus te connaît intimement, précisément, dans le détail, mieux que quiconque, mieux que moi-même, mieux que toi-même, mieux que tes parents, mieux que ta sœur ou ton frère. Il sait très bien dans quel état nous sommes chacun ici. On est tous des blessés au bord de la route. Les églises commencent à dysfonctionner quand elles commencent à oublier qu'elles sont un amas de blessés sur le bord de la route. Quand l'église ne devient plus qu'un lieu de « ça va, ouais, super, et moi aussi », mais où sont les blessés ? Nous sommes des blessés. Jésus choisit de s'arrêter pour s'approcher de moi, de s'approcher de toi, de nous, ce soir, toujours, demain il t'attendra aussi. Il veut nous soigner, il veut prendre soin de nous, de chacun d'entre nous ici. On a de la chance, l'amour de Dieu, à la différence d'une autre, n'est pas limité. Il a un quota qui peut s'étendre à l'infini. Et il choisit chacun d'entre nous. Ce soir, Jésus nous appelle, comme il a fait avec le blessé au bord de la route. Il nous dit qu'il nous connaît dans les bons et les mauvaises choses. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il dit qu'il a donné tout ce qu'il avait pour que nous puissions être à ses côtés dans l'éternité. L'auberge, c'est que le début de cette éternité. L'église, ce n'est que le début de cette histoire. L'église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Mais il y a un après. Jésus ne veut pas seulement nous restaurer. Jésus veut nous mettre en marche. Parce que si nous recevons l'amour de ce bon Samaritain, si nous comprenons ce qu'il est prêt à faire pour nous, il y a quelque chose qui va naître dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est la reconnaissance, c'est la joie. Seigneur, mais comment tu peux m'aimer moi ? Et cette joie pure, elle ne fait que déborder. Et c'est comme ça qu'on en va à aimer autour de soi. Et c'est comme ça qu'on devient le prochain. Ça commence d'abord par la rencontre entre le bon Samaritain Jésus et le blessé au bord de la route. Pour que tu puisses à ton tour aimer comme Jésus t'aime. Pour que tu puisses à ton tour choisir le prochain que tu veux être pour ceux qui t'entourent. Laisse aujourd'hui Jésus saisir tout ce qui est blessé en toi, le soigner et le restaurer. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, avant d'être celui qui aide, celui qui apporte, celui qui pratique cette bienveillance que tu nous exhortes à pratiquer, nous devons d'abord être au bénéfice de celle que toi tu pratiques sur nous. Seigneur, je te demande de bénir chacune des personnes qui sont présentes ici ce soir. Tu vois les mots qui ont été posés, les questions qui ont été soulevées dans le cœur des uns et des autres. Je te demande, Seigneur, par ton Esprit Saint maintenant, de les accompagner, de les travailler, de dialoguer avec eux, de les rejoindre là où ils ont besoin de t'installer. Que tu puisses les loger dans ton hôtel, qu'ils puissent trouver aussi leur place dans ton église, qu'ils puissent être restaurés et soignés pour qu'ensuite, reconnaissant de ce cadeau immense et immérité que tu as fait, ils puissent aimer sans compter. Seigneur, aide-nous à aimer sans compter. En ton nom. Amen.